Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Olivier Duhamel.
Oui, bonjour à tous, c'est Mediapolis. Exceptionnellement, Catherine Nel n'a pas pu se joindre à nous, mais elle sera de retour samedi prochain. Voilà qui va m'obliger à chercher notre invité, non seulement par la gauche, mais aussi par la droite. Et lui, et bien, c'est Jean-Christophe Cambadélis, président de la Fondation des réseaux d'entraide et ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, et encore une tête pensante et agissante à gauche. L'émission est réalisée à nouveau par Jean-Luc Arblat, qui nous a retrouvés, et préparée par Capucine Patouillet, comme toujours. Jean-Christophe Cambadélis, les Français vous connaissent pas tous, je pense qu'une partie de nos 580 000, près de 600 000 auditeurs, que je remercie, vous connaissent, mais pas tous. En fait, vous êtes dans la politique depuis que vous êtes jeune étudiant et vous n'en êtes jamais sorti, on peut dire ça.
On peut dire ça. J'ai commencé très tôt, j'ai terminé mes études et travaillé, mais en même temps je faisais de la politique et je continue.
Vous avez démarré trotskiste, c'est ça ?
J'ai démarré, à l'extrême gauche, trotskiste, tendance lambertiste.
Et quand vous êtes rentré au PS, vous étiez encore trotskiste ou pas ? C'est une question assez intéressante.
Moi non, je n'étais pas. Moi j'ai rompu violemment d'ailleurs. Ouais. C'est des lieux à des combats épiques. Je suis parti avec 450. Nous avons créé Convergence Socialiste à l'époque.
Et juste un mot, quelle était la raison principal qu'on vous comprenne et qu'on vous connaisse.
Eh bien, c'est la raison, c'était que dans cette organisation, on estimait que, au fond, François Mitterrand, c'était pire que Jean-Marie Le Pen. Moi, j'étais déjà sur la thématique qu'à travers Jean-Marie Le Pen, c'était le retour du refoulé dans notre société, qu'il y avait une dimension à l'époque, comme ça on l'a caractérisé, nationale populiste. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le président de la République socialiste était celui qui pavait le fascisme en France et pas Jean-Marie Le Pen. Donc là, il y a eu un désaccord qui a été de plus en plus important et puis il y a eu une rupture.
Et ça, c'était en quelle année ?
86.
Voilà, et depuis, socialiste vous êtes, socialiste.
Mais vous voyez, je suis socialiste depuis 1986, mais on me renvoie toujours à mes années de jeunesse, ce qui me rajeunit et me fait plaisir, mais quand même.
Allez, on va se rajeunir nous aussi en écoutant Nicolas Canteloup.
L'info du jour, c'est cette vidéo de violence policière contre Michel, ce producteur de musique. Antoine Griezmann a réagi en déclarant qu'il avait mal à sa France. Mal à sa France, oui. Bah, qui pense un peu à Michel, qui lui a mal à sa tête, mal à sa bouche, mal à son nez, mal à son épaule. C'est footballeur, elle a toujours à simuler la douleur, mal à sa France.
C'était donc vendredi matin, c'était le seul passage de la revue de presse de Canteloup évoquant l'incroyable violence policière contre ce producteur de musique. Je ne sais pas comment vous avez réagi à cela. Vous avez vu les vidéos, j'imagine, Jean-Christophe Cambadélis ?
Oui, j'ai vu les vidéos. Dans un premier temps, il y avait une sidération parce que, évidemment, j'ai pensé la situation américaine et ses violences, je me suis dit, mais quand même, en France, c'est quand même bizarre. Et puis, au fur et à mesure, des éléments sont arrivés. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que notre pays partait en sucette. Parce que, d'un côté, vous avez un habitant de Saint-Denis qui s'offusque des dealers qui est passé par la fenêtre. De l'autre, des policiers qui frappent un producteur, au nom, paraît-il, c'est pas encore prouvé, mais de sale nègre, du troisième, des violences urbaines quasiment tous les jours. On apprend le même jour qu'une émission de France 2 n'a pas pu se tenir à Grigny parce que la police était incapable d'assurer la sécurité d'une émission de télévision du service public. Un humoriste parodie une émission de CNews et pour tout dire Pascal Praud et il est viré dans la journée. l'impression que tout ça est en train de se désagréger, sans parler des questions politiques, où la majorité s'oppose fortement au gouvernement
si vous,
sur...
Si vous me permettez, votre tableau est impressionnant, mais vous mélangez un peu tout. Je voudrais qu'on se focalise quand même un instant sur, sur cette agression contre le producteur. Je suis évidemment frappé, comme tout le monde, même le président de la République. Hein, le début du message du président de la République sur Facebook, c'est les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables, elles nous font honte. Donc on peut difficilement s'exprimer plus fortement. Mais ce qui me frappe aussi, et qui est plus rarement révélé, c'est que dans la seconde vidéo plus longue, on voit que sont arrivés des renforts. Je dirais comme ça, à vue de nez, je ne les ai pas comptés, je n'ai pas fait à l'image pour les compter, mais au moins une vingtaine d'autres policiers, et personne ne bouge. On continue à le frapper au sol, et personne ne bouge. Et ça, c'est peut-être encore plus stupéfiant, parce que c'est du coup, ce n'est pas juste une personne qui pète les plombs, c'est une personne qui pète les plombs, et les autres qui ont l'air de trouver ça acceptable.
Tout à fait. Il se passe quand même quelque chose dans... notre appareil de sécurité. À partir du moment où le préfet Lallemand a dit il y a nous et il y a eux.
Oui, je ne suis pas dans votre camp. Oui.
Je ne suis pas dans... C'est, bon,
ça, c'est l'anti-Grimaud absolu.
Absolument.
Du préfet Maurice Grimaud en mai 68, qui avait dit, pour être respecté, il faut que vous soyez respectable.
Là, on peut comparer. C'est-à-dire qu'en 68, il y avait quand même quelques manifestations.
Et parfois de la violence,
et
oui.
Bah oui, qui n'était pas avec des fleurs, et avec des violences. On se souvient de Gay-Lussac, etc.
Barricades, voitures brûlées.
Barricades, etc. Mais on a une police qui évite le débordement et qui évite la confrontation d'une certaine manière, tout en maintenant l'ordre. Il faut dire ce qui est. Bon. Et là, on a des éléments sporadiques où on a l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Et où il y a, il faut quand même le dire, des actes racistes.
Mais alors ce que je voudrais, peut-être que vous le savez, ce qui me surprend aussi, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, ni des autorités de contrôle au sein de la police, ni à l'extérieur de sociologues, sur l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, moi je ne sais pas, et si vous le savez, il faut nous le dire, s'il s'agit de 2%, 3%, 1% de policiers racistes, ou s'il s'agit d'un phénomène beaucoup plus ample. On n'a pas d'évaluation sérieuse de la chose. Et comment se fait-il ? Parce qu'on est quand même dans un pays développé, évolué. Cette question des violences policières et cette question du racisme éventuellement dans la police, elle est sur le devant de la scène depuis longtemps. C'est une question importante. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas l'évaluer ?
Ça a dû être fait, mais ce n'a pas été porté à notre connaissance.
Vous ne savez pas.
Je ne sais pas. De manière empirique, je m'aperçois qu'il y a des violences. Moi, je n'entends pas la violence policière, il y a des violences. Il y a des violences. Et il y a des violences racistes. Et on n'arrive pas à les juguler. On n'arrive pas à faire en sorte que cette police soit républicaine et maîtrisée. C'est pour moi l'élément essentiel. Alors, est-ce que c'est dû à la contamination dans les corps de police de phénomènes politiques? On voit qu'il y a des syndicats qui sont très à droite, voire à l'extrême droite. Est-ce que c'est dû à une hiérarchie qui laisse faire? Pour quelle raison? Est-ce que c'est dû à un dysfonctionnement à l'intérieur de la police, qui est due à sa structuration, à la manière dont elle est structurée? En tous les cas, c'est un vrai sujet et il faut qu'on puisse y répondre fermement.
Ce sont de très justes questions, mais ce qu'on aimerait au plus rapidement possible, c'est de pouvoir enfin apporter des réponses à ces justes questions. J'en ai d'autres questions, notamment sur ce qui s'est passé place de la République. Après une pause, une petite pause, bonne nouvelle, elle est plus courte que d'habitude, mauvaise nouvelle pour les finances d'Europe 1. Allez, on se retrouve très vite.
Europe 1, Mediapolis, Olivier Duhamel.
avec Jean-Christophe Cambadéliste, socialiste un jour, socialiste toujours, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui vient de d'écrire un mémorandum pour une République impartiale. Assez sophistiqué comme titre. C'est vous qui l'avez trouvé ou un agent de com?
Non, c'est moi. Mémorandum, parce que c'est un ensemble de réflexions. Ce n'est pas tout à fait un manifeste, ça viendra peut-être. Mais c'est une réflexion sur la nécessité, à la fois pour notre pays, d'avoir une République impartiale et pour la gauche de se reconstituer autour de cette idée.
Vous l'avez publié sous quelle forme, en ligne?
En ligne, sur nouvellesociétés.fr.
En fait, vous êtes comme le président de la République qui fait un message par Facebook de pages. Vous publiez que en ligne. Vous êtes,
voilà, 10 pages.
Vous êtes super geek moderne.
Ouais, bon, j'essaye de m'adapter à la communication moderne.
Bon, enfin, il y a quelque chose de pas du tout geek et pas du tout moderne, c'est tout ce qui s'est passé sur la place de la République. Écoutez le député LAREM, ancien chef du RAID, Jean-Michel Fauvergue, sur le sujet.
On peut se demander pourquoi tout le monde était au rendez-vous de la donnée par des associations et par l'extrême gauche qui avait organisé le show. Ensuite, on peut se demander qu'une fois le show terminé, est-ce que ces associations-là et est-ce que les gens qui avaient organisé tout ça se sont occupés des migrants ou les ont laissés divaguer dans les rues une fois que les choses étaient faites? N'ont-ils pas tout simplement manipulé ces pauvres airs?
Alors, c'était donc Jean-Michel Fauvergue, député LAREM, ancien chef du RAID, comme je l'ai dit, invité de Guillaume Erner sur France Culture jeudi matin. Alors, donc, c'était lundi, place de la République. Allez, soyons clairs, allons-y carrément. Je vous pose la question que vous aurez posée probablement encore mieux que moi, Catherine Ney. Est-ce que tout ça n'est pas une provocation organisée par l'extrême-gauche?
Je répondrai à Catherine Ney, quand bien même. Ce n'est pas parce que des organisations, pas obligatoirement gauchistes, mais qui sont dans la solidarité avec des migrants dont le camp venait d'être démantelé, parce qu'on oublie de dire ce qui s'était passé, et qui protestaient place de la République en installant des tentes, ce n'est pas pour autant qu'on fait des ratonnades dans les rues.
Vous savez comment ça s'est produit? Parce que j'ai eu la possibilité de me renseigner là-dessus. Quand le campement précédent a été démantelé, les associations avaient annoncé à la préfecture qu'il y avait à peu près 2500 migrants. Et pour les reloger, la préfecture de Paris-Île-de-France avait prévu 3000 places, en se disant il peut y en avoir un peu plus. Et en fait, il y en avait 3500. Parce que, apprenant qu'ils allaient être élevés, ils sont venus. Et donc,
Il y avait une volonté de pression. Mais ça, c'est n'importe quelle association a le droit de protester. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas choqué que des gens protestent place de la République, qu'ils fassent une action spectaculaire en installant des tentes. Il y en a eu d'autres, il y a une nuit debout ou autre chose. Et je ne suis pas choqué que la préfecture de police dise, si on les laisse, on a... une situation ingérable au cœur de Paris. Le problème, là, c'est à la fois la protestation et le maintien de l'ordre. Ce qui me choque, c'est la manière dont, encore une fois, on n'est pas capable de maîtriser une décision du préfet. Et après, on y va, on les vire et on les poursuit dans les
rues.
Mais
vous êtes d'accord, même si je peux être d'accord avec vous et Catherine n'est pas d'accord, je ne vais pas arrêter de faire parler Catherine qui n'est pas là, mais c'est quand même pas du tout du même ordre dans la gravité de ce qui s'est passé avec le producteur Michel.
Mais je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Je veux voir si
vous êtes d'accord avec moi.
Non, c'est sans
commune mesure.
C'est un type
qui perd le contrôle et qui file un coup de pied ou qui fait un croche-patte, c'est pas comme s'acharner, insulter, massacrer et recommencer.
Nous sommes d'accord, c'est une différence de niveau. Mais il y a quand même une attitude vis-à-vis des gens qui sont censés nous envahir.
Et alors, par rapport à ça, se pose toujours la grande question de la responsabilité politique. Soyons clairs. La responsabilité civile, si elle devait être engagée, c'est l'État.
Absolument.
La responsabilité pénale, c'est l'auteur du délit.
Absolument.
Par la justice au terme du processus. Et pour l'instant, donc, il y a toujours présomption d'innocence, mais avec beaucoup, beaucoup d'éléments qui mettent ces gens en difficulté. Mais la responsabilité politique, est-ce que vous considérez que quand il se passe quelque chose d'aussi grave, il faudrait, ou pas, et pour quelle raison, que démissionne le préfet de police, ou que démissionne le ministre de l'Intérieur, ou que démissionne le Premier ministre, ou que démissionne personne.
Non, je pense que le président de la République a demandé qu'on lui fasse des propositions pour rétablir la confiance. La confiance ne se décrète pas. Ce sont des gestes. Et le premier geste du président de la République aura été de demander que le préfet soit démis de ses fonctions. C'est le premier geste. À ce moment-là, pour tous ceux qui vont protester aujourd'hui, vous voyez comment on crée des situations. Car aujourd'hui, nous allons avoir des manifestations, particulièrement à Paris, de la République à la Bastille cet après-midi.
Vous allez y aller, manifestement.
Oui.
Précisez l'heure pendant que vous y êtes.
Non, mais avec une décision de justice.
À 14h. Alors, parlons.
Non, mais oui. Avec une décision de justice qui va à l'encontre de l'interdiction du préfet.
Oui.
Et on ne prend
ça,
pas.
C'est très bien, ça. Ça veut dire qu'on est dans un état de droit.
Mais bien sûr,
mais dans lequel on a pu saisir, en référer.
Et absolument.
C'est bien, c'est important, la justice contre une décision de préfecture. Et hop, annulé.
Et donc, c'est pour ça
que. Il n'y a pas beaucoup de pays où c'est comme ça.
Mais
hein.
Bien sûr.
Vous savez, c'est parce qu'il existe un truc qui est assez récent dans notre histoire qui s'appelle le référé liberté.
Oui, je sais.
Qui fait que 365 jours par an, jour et nuit, vous avez au tribunal administratif de Paris ou au Conseil d'État quelqu'un de permanence pour, s'il y a une atteinte grave aux libertés et qu'il faut prendre une décision immédiate parce que sinon on ne pourrait pas la corriger, on répond. C'est quand même assez formidable, ça.
C'est formidable. Ça. Bon. Et donc, aujourd'hui, il y a cette manifestation, mais il y a le même préfet. Et obligatoirement, au lieu de demander justice pour Michel, on est dans une thématique qui va être une hostilité vis-à-vis du préfet. Et je pense que le président de la République a réagi, peut-être un peu tardivement, 24 heures après, mais il a réagi, mais il aurait dû prendre cette mesure, puisque ça aurait assaini la situation.
J'entends bien sur la démission du préfet, sur le président de la République. S'il réagit tout de suite, on dit qu'il pourrait attendre d'en savoir un peu plus avant de réagir. S'il réagit 24 heures après, on dit comment il a fallu 24 heures pour qu'il réagisse.
Mais il a regardé la vidéo, oui. Il a été choqué comme tout le monde, il pouvait réagir.
Oui. Et si vous étiez un peu à l'air eux-mêmes, vous me diriez qu'il a pris le temps d'y voir, il a eu raison avant de réagir. Allez, on se retrouve après une pause. Brève aussi. Je vous avais dit qu'on se retrouvait très vite avec Jean-Christophe Cambadélis, président de la Fondation Les Réseaux d'Entraide, auteur d'un mémorandum pour une république impartiale que vous pouvez lire en ligne. En plus, c'est pas très long et assez intéressant. Et nous parlions donc, vous aviez évoqué la loi sur la sécurité globale et notamment cette idée. J'aimerais bien savoir qui a donné au Premier ministre cette idée invraisemblable de, le lendemain du jour, où il avait décrété que le texte était équilibré, mais qu'il pouvait, après passage au Sénat et à l'Assemblée nationale, être encore un peu meilleur, nommer une commission extérieure au Parlement pour le réécrire. Écoutez le vice-président de l'Assemblée nationale, député pourtant La République En Marche, Hugues Ranson, au micro de Claudia Bertram sur Europe 1 vendredi.
Comme tous les parlementaires, et d'ailleurs de tous les bancs, j'ai appris avec une forme d'incrédulité la mise en place de cette commission. On est en plein débat parlementaire sur un texte, et je crois qu'il n'appartient pas à une commission administrative de contourner l'activité des représentants du peuple et les parlementaires, fussent-ils de la majorité, veulent remplir leur mission de représentants du peuple. Je crois qu'il est préférable, souvent, plutôt que de vouloir s'obstiner à sauver un dispositif, d'y renoncer, de se remettre autour de la table et de prendre le temps de discuter sereinement à de nouveaux dispositifs.
Alors, soyons honnêtes, il a été écouté, c'est-à-dire que le Premier ministre a renoncé à cette idée saugrenue. Mais vous avez fréquenté de très près le pouvoir, vous savez comment ça fonctionne. Essayez de me trouver, juste pour le plaisir de la connaissance de nos auditeurs, essayez de nous construire comment diable on peut arriver dans ces cas-là à fabriquer des idées aussi saugrenues.
Ben, d'abord, le gouvernement est face à une fronde du Parlement. Il y avait des frondeurs sous François Hollande. Là, c'est le Parlement, puisque le président de l'Assemblée nationale a pris position. Castaner s'est fait un petit sucre et une petite vengeance. En prenant position aussi. Bref, donc, comment ça fonctionne ? bien, j'avais déjà remarqué ça, c'est le décalage entre le temps gouvernemental, Matignon, les discussions, ah bah faudrait faire ci, faudrait faire ça, en fonction de ci, etc. Et le temps médiatico-politique. Je prenais l'exemple tout à l'heure du fait que le président de la République avait pris 24 heures pour pouvoir réagir. J'imagine, on lui montre, on lui dit « Ah, mais
on
alors... »
On dit, si vous voulez bien, on dit « média politique ». Parce que comme c'est le mot qu'on avait inventé avec Michel Field, si vous dites « médiatico-politique », on va être vexé.
« Média politique », si vous voulez. Donc, il y a un temps différent. Il y a, différent. Il y a une temps, inertie. Ouais. De l'appareil d'État, où avant qu'une décision soit prise, il y a d'abord beaucoup de conseillers qui s'affrontent, ça on le sait peu.
Oui.
Il y a la nécessité de prendre des contacts, etc. Et hop, les choses sont passées. Et d'un certain point de vue, si vous me permettez cet élément, c'est Trump qui a réglé le problème. Parce qu'il réagit par Twitter. Et donc, il est dans le temps de la polémique et du buzz, pour parler comme aujourd'hui. Et son administration est 10 km derrière. Ce n'est pas un problème.
Mais dans l'affaire, vous avez raison, mais dans l'affaire dont on parle, moi, ce que j'imagine, sur un cas comme ça, si je suis le conseiller chargé des relations avec le Parlement, bien sûr. Le Premier ministre, je passe un petit coup de fil à Richard Ferrand et je lui dis, voilà, on a cette idée pour essayer de régler le truc, qu'est-ce que t'en penses ? Il le tutoie, qu'est-ce que vous en pensez s'il le voit ? Et l'autre lui dit, mais vous êtes tombé sur la tête, même moi je serais obligé de protester si vous faites ça. Donc il n'y a pas ces mécanismes de contrôle.
Non, parce que le ministre chargé des relations avec le Parlement est sûrement pas au courant de la décision du Premier ministre.
D'ailleurs, Capucine Patouillet me précise que c'est le ministre de l'Intérieur Darmanin qui l'a suggéré.
Oui, bien sûr.
Au Premier ministre.
Et donc, je suppose que c'est dans le moment où ils se sont retrouvés dans le bureau du Premier ministre entre Darmanin et Castaner sur ce texte. Mais il a déjà été voté.
Oui.
Donc on hallucine. Donc ces dysfonctionnements-là sont dus tout à la fois à des problèmes internes structurels et en même temps dus à une situation politique parce que aujourd'hui, le gouvernement est dans la difficulté politique, c'est évident.
Allez, on va passer maintenant à un autre grand thème, celui, brièvement d'ailleurs, je vous rassure aussi, celui dit du confinement, après une toute petite pause.
Europe 1, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Christophe Cambadélis, ancien député socialiste, toujours membre du Tea Party et très actif, on va le voir dans un instant. Mais avant, comme annoncé, nous allons faire un petit tour du côté du confinement et entendre Jean Castex, où là, peut-être, il est plus à l'aise. Encore que, écoutez.
Nous autorisons le redémarrage progressif de certaines activités en les entourant de règles sanitaires protectrices. Et nous maintenons fermés plus longtemps des activités parce qu'elles présentent un risque sanitaire plus avéré, notamment parce que le port du masque ou le respect des gestes barrières n'y sont pas complètement possibles. Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public.
C'était sa conférence de presse de mercredi, je dois dire qu'il a eu un très grand succès avec le fait que les stations de ski étaient ouvertes, mais qu'évidemment, on ne pouvait pas y faire du ski ni aller dans les bars et restaurants. Ça vous a fait rigoler, Jean-Christophe Cambadélis ?
Oui, ça m'a fait rigoler. Bon, moi, je m'abstiens de tout commentaire sur la question de la gestion de cette crise sanitaire, parce que je pense que c'est très difficile, que tout le monde a son avis, que c'est contradictoire, que les médecins nous disent une chose et puis une autre, les épidémiologues la même chose. Bon, mais il faut dire quand même qu'un jour, on fera le best-of de cette période. Il y a de quoi rire quand même.
Ouais. Mais parfois, une certaine forme d'absurdité est très difficile à éviter. Je vous donne un exemple. Depuis ce matin, nous pouvons nous déplacer 3 heures jusqu'à 20 km. Alors, on se dit, 20 km, qu'est-ce qui se passe à 20 km? Le virus est différent à 19 km et 21 km et tout. Ça n'a pas de sens, ce truc. Mais après, si on réfléchit un peu plus, c'est qu'on se dit, bon, le gouvernement ne veut pas lever maintenant le confinement géographique. Il veut peut-être le 14 décembre, mais pas maintenant pour contenir le virus. Il est bien obligé de mettre une limite, parce qu'il ne peut pas dire... Je ne lève pas l'interdiction d'aller faire visite dans le sud-ouest à ses vieux amis et chercher mon foie gras. Il est bien obligé de dire, donc vous n'avez le droit d'aller que à, et de prendre une limite qui paraît comme absurde. Donc de temps en temps, on est presque obligé à l'absurde, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait, mais je pense que le problème est que les attendus ne sont pas présentés. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend on restitue un discours qui semble d'une logique implacable. Or, évidemment, et les Français adorent ça, ils vous démontrent ça en deux temps, en trois mouvements, tous les médias s'en saisissent, et à la fin, ça devient un pataquès. Mais il faut expliciter les raisons que, ce que vous venez de faire, ce qui fait que tout le monde comprend. À partir de là, les Français ne sont pas idiots, ils disent « oui, mais c'est vrai, s'ils ouvrent, bah, je vais aller voir ma grand-mère et aller chercher mon foie gras, si c'est de foie gras dont il s'agit, ou des confitures ». Donc, la question, c'est qu'on a ce chic, mais qui est dû à nos institutions, du discours du président de la République qui s'adresse à la nation comme si demain, on allait débarquer sur les côtes de Normandie. Bon, voilà, donc à chaque jour, à chaque fois, on a ces discours incroyables. On est rivé à son fauteuil, on se dit « attention, les envahisseurs sont parmi nous ».
Est-ce qu'il a raison d'avoir pris en charge lui-même, indépendamment donc de la manière de le faire, sur le principe, ça c'était sa sixième allocution, est-ce qu'il a raison ?
Quand il a décidé que c'était une guerre, il a parlé comme François Mitterrand pendant la guerre du Golfe, c'est-à-dire quasiment tous les 15 jours, tous les 10 jours. Je pense que c'est un problème qui est posé à nos institutions. On n'arrive pas à trouver le bon niveau, parce que M. Castex intervient 4 jours plus tard ou 3 jours plus tard, il doit... expliciter des formules qui ont été alambiquées, répondre à des polémiques, parfois s'égarer dans des prises de position sur les stations de sport d'hiver à visiter pour l'air et non pas pour le ski. Bon, et tout ça devient grotesque. Et à chaque fois, ça rebondit. Donc, il vaudrait mieux un discours qui soit déployé au début du confinement, puis... Ce qui avait assez bien réussi, il faut le dire, Édouard Philippe, quasiment des causeries qui démontent les raisons pour lesquelles on prend telle ou telle mesure. Et le deuxième confinement a été moins explicité que le premier.
Je ne peux pas m'empêcher, à l'analyste politique que vous êtes par ailleurs, puisque vous avez mentionné le nom d'Édouard Philippe, de faire une incidente et de vous demander ce que vous pensez qu'il a un grand avenir politique.
Tout à fait. Tout à fait. Ça dépendra s'il veut ou pas franchir le Rubicon. Il est vrai qu'au Havre, la Seine est large, mais je crois que vous connaissez ça par cœur, on n'a jamais vu un Premier ministre quitter ses responsabilités à un tel niveau. Aujourd'hui, il est dans une situation où il peut unir l'ensemble de la droite, les juppéistes et les sarkozystes. Et je pense qu'il est un recours. Alors après... Est-ce qu'il voudra le faire ? Est-ce qu'il aura les conditions pour le faire ? Est-ce qu'Emmanuel Macron sera candidat ou est-ce qu'il ne sera pas candidat ? Il n'est pas maître du match retour, on va dire, comme on dit, de son destin au football.
Il vous est sympathique, ce personnage ?
Pas spécialement. Non. Je le juge comme étant un homme de droite.
Qui à droite vous est plus sympathique que lui, alors ?
Comment ?
Qui à droite vous est plus sympathique que lui ?
Xavier Bertrand.
Ah oui ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est le gaullisme social. Il est plus sympathique. Je pense qu'il a fait une erreur là en décidant que son premier tour serait le deuxième tour de l'élection régionale. Il a obligé la gauche et les écologistes à lui dire non, parce que sinon ça veut dire qu'il soutenait le futur candidat à l'élection présidentielle des Républicains. Donc ça, c'est une erreur politique. Mais par ailleurs, je trouve qu'il incarne une logique plus sociale. Et comme pour moi, c'est la grande question qui est posée aujourd'hui, je suis plutôt sensible. Alors que Édouard Philippe est très libéral.
Eh bien, on va venir maintenant à la gauche. À la gauche, c'est très gentil de dire à la gauche. On va en venir O-A-U-X, gauche, G-A-U-C-H-E-S, dans une petite minute, une minute trente.
Europe 1, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Christophe Cambadélis, vous n'avez pas écouté les grandes publicités. Il y avait une pub pour AXA et les plans retraite. Alors les plans retraite, personne ne les cherche à gauche. Hein. Je vois pour l'élection présidentielle, candidat, évidemment Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, c'est clair. Après une épreuve terrible, 150 000 signatures. Bataille chez les socialistes, fondamentalement, chez les écologistes, entre Yannick Jadot et Éric Piolle, plus Sandrine Rousseau, ils sont trois dans la course pour l'instant. Et alors, au Parti Socialiste, on dit que Arnaud Montebourg sera candidat, on dit que il faudrait que Christiane Taubira soit candidate, on dit que Ségolène Royal veut vraiment être candidate. Et vous, tranquille, vous vous êtes ajouté au lot.
Oui, oui.
Bah, vous n'avez pas peur.
C'est pas terminé. Écoutez, aujourd'hui, la gauche est éliminée du deuxième tour d'élection présidentielle. Aujourd'hui, je vous le dis, elle ne passera pas le premier tour d'élection présidentielle. Ouais. Et ceci a des conséquences. Soit parce que le candidat de droite sera élu, soit parce que M. Macron sera élu, soit parce que Marine Le Pen peut l'emporter. Donc la gauche joue sa dislocation et sa marginalisation.
Et en quoi, vous portant candidat, vous aidez à ce que ça ne se produise pas, vous ajoutez au désordre et aux ambitions d'être calife à la place du calife.
Je vais vous répondre.
Ou plus exactement, d'être sûr de ne pas être calife à la place du calife.
Je vais vous répondre. Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, on cherche le casting, alors qu'il faut chercher le programme. La question n'est pas de savoir qui à cette étape, mais ça veut dire savoir quoi.
Or, la gauche... À chaque fois, vous nous dites
Non. Mais moi, je ne suis pas candidat à chaque fois.
La vérité de l'histoire, c'est exactement l'inverse.
C'est pas
l'inverse.
Vrai. Pas cette fois-ci.
C'est que quand on est d'accord sur le casting François Mitterrand, quand on est d'accord sur le casting François Hollande, eh ben, il y avait un projet, et puis on le transforme en proposition, et puis on en prend fait un bout quand on est au pouvoir, mais on peut conquérir le pouvoir.
Non.
Quand on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur ce que vous appelez le casting, vous pouvez faire le plus beau projet du monde, vous n'arriverez à rien.
Monsieur Duhamel, laissez-moi vous expliquer ce qui est mon point
de
vue.
Oui, mais laissez-moi vous avoir objecté.
Mais j'ai entendu. Il y a un changement qualitatif. C'est que nous sommes passés du bipartisme à l'éclatement de l'offre politique.
Ouais.
Bon. Quand vous étiez dans le bipartisme, c'était simple, c'était la synthèse de votre camp et choisir un candidat. Et la personnalité avait son importance. Mmh. Un François Mitterrand à un moment donné, un François Hollande face à une Martine Aubry, à un moment donné dans les sondages, une Ségolène Royal ou un Dominique Strauss-Kahn, oui.
Et n'oublions pas Lionel Jospin.
Surtout pas. Mais Lionel Jospin était dans une situation où, passant par les élections législatives, il a pu être candidat à l'élection présidentielle.
Oui, c'est ça.
Et déjà là, en 2002, c'est la multiplication des offres à gauche qui a fait échouer Lionel Jospin, ce qui me fait penser que nous ne serions pas là aujourd'hui s'il avait été président de la République, mais c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le bipartisme. Et donc le choix du candidat est moins celui de la personnalité qui incarne que de l'orientation qui est proposée. Je dis souvent, au bipartisme, il fallait la synthèse, au multipartisme, il faut la thèse. Et donc je suis candidat pour défendre une réorganisation, une réorientation, une réinitialisation, pour faire moderne, de la gauche sur un certain nombre de thèmes qui sont la République impartiale.
Ok. Est-ce que vous pensez, maintenant, soyons un petit peu plus précis, une fois que ce travail sera fait, est-ce que vous pensez qu'il y a la moindre chance qu'il y ait un seul candidat, et vous répondez très vite à ma question parce que le temps passe, un seul candidat de toutes les gauches à la présidentielle, est-ce qu'il y a la moindre chance?
Non.
Est-ce qu'il y a la moindre chance qu'il y ait un seul candidat hors Jean-Luc Mélenchon?
Oui.
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 C'est-à-dire qu'il est possible qu'écologistes et socialistes se retrouvent derrière une seule
figure. C'est très difficile à cette étape. D'abord parce que les écologistes se sont précipités. On peut les comprendre parce qu'ils pensent qu'ils ont une fenêtre de tir historique pour passer enfin devant les socialistes dans le paysage politique français. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que le danger est tel, que la situation est telle, on vient de la décrire, qu'ils vont porter une responsabilité majeure pour l'histoire de ne pas avoir fait en sorte qu'il y ait une candidature commune.
Vous qui aimez comparer les temporalités, on peut se demander s'ils ne se sont pas trompés deux fois, c'est-à-dire s'ils ne se sont pas trompés en 2017 de ne pas y aller, où c'était un moment où, au contraire, dans l'état de décomposition des socialistes, ils pouvaient faire un vrai résultat. moyennant quoi ils ont rallié le candidat socialiste qui a fait 6%, donc un désastre. Et c'est plutôt là qu'ils devraient chercher l'union aujourd'hui. Ils ont tendance à faire à l'envers.
Ils ont fait à l'envers. Mais là, aujourd'hui, c'est gravissime. Moi, je ne le dis pas pour polémiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, la constitution, d'abord la reconstitution de la famille politique de centre-gauche avec une nouvelle offre est nécessaire, et l'unité l'est tout autant.
Sur le fond, attendez, tiens, on va réécouter juste Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui était samedi dernier sur BFM.
Les partenaires verts, j'ai souvent cette discussion avec eux et je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Ce problème de rapport à la République, il doit être clarifié. Je ne suis pas pour le relativisme culturel. On a eu un certain nombre de crises où on a eu l'occasion de se dire ces choses-là, et encore récemment sur Samuel Paty.
Alors, inutile de vous dire que ça a déclenché des réactions extrêmement virulentes et furieuses de plusieurs leaders verts, de Yannick Jadot et d'autres. Mais sur le fond, est-ce qu'il y a là une vraie coupure, une vraie déchirure ? Jean-Christophe Cambadélis nous répond dans une minute.
Europe 1, Mediapolis, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis, les écolos ont un problème avec la République ?
Je n'ai pas écrit La République impartiale pour estimer que Anne Hidalgo a tort dans son diagnostic. Ils ont un problème avec le régalien, oui. Et parce qu'ils sont issus d'une culture qui est une culture libertaire. Et autant post-68 ou dans les années 80, où on était dans l'extension des libertés, ceci pouvait être porté, pas majoritaire, mais porté. Autant aujourd'hui, où il y a un besoin de protection qui est considérable, c'est à côté de la plaque. Donc, si on n'a pas ce débat avec eux aujourd'hui, non seulement ils vont aller au bout, et ruiner avec Mélenchon la possibilité d'une candidature au moins un peu unitaire pour pouvoir espérer être au deuxième tour. Et sinon, ils vont proposer une candidature qui, sur ces problèmes-là, va poser énormément de problèmes à notre électorat, qui est réduit aujourd'hui, mais qui existe, et aux socialistes, parce que la question républicaine devient la question centrale.
Très bien. Pendant ce temps-là, le feuilleton continue et rebondit aux États-Unis d'Amérique. Vous savez que Alice Baudry, directrice marketing et communication à l'Institut Montaigne, suit pour nous les médias internationaux. Elle nous invite cette semaine à regarder un article du Time Magazine qui fait le point sur les dernières nouvelles concernant la posture de Donald Trump suite à sa défaite et la préparation de son départ de la Maison-Blanche. L'article précise que Trump a déclaré jeudi qu'il quitterait bien la Maison-Blanche si le collège électoral officialisait la victoire de Biden, en insistant en même temps sur le fait qu'une telle décision serait une erreur. Pour rappel, jeudi c'était Thanksgiving et il a profité de cette période festive plus calme pour renouveler des affirmations sans fondement selon lesquelles c'est une fraude massive qui explique sa défaite. Jeudi, c'est la première fois que Trump répondait à des questions de journalistes depuis le jour du scrutin. Il s'est entretenu avec des journalistes dans la somptueuse salle de réception diplomatique de la Maison-Blanche, juste après son adresse de Thanksgiving au chef militaire américain. Et l'article explique que Trump a insisté sur le fait que beaucoup de choses pourraient encore se passer d'ici à janvier, qui pourraient modifier les résultats. Il y a un long chemin à parcourir. L'article reprend aussi cette citation d'un Trump amer : « Les gens sont très déçus que nous ayons été volés ». Le fait qu'un président américain en exercice ait même à se demander s'il quitterait ou non les fonctions après avoir perdu sa réélection, montre à quel point Trump a brisé toutes les conventions ces trois dernières semaines et pratique une violation sans précédent des normes démocratiques. Vous n'imaginiez pas connaître ça de votre vivant comme moi, j'imagine, Jean-Christophe Cambadélis.
Non, encore qu'on avait connu beaucoup de choses aux États-Unis avec Nixon et Clinton en son temps. Mais là, on se pose la question... On a toujours tendance, nous, à juste raison, de critiquer Trump. Mais je pense qu'il y a, deux raisons à sa tactique.
Ouais.
La première.
Moi, j'aurais dit à sa folie, mais allez-y.
Oui, oui, bah, oui, sa folie, sa tactique. Mais ce que je veux dire, c'est que ne l'enfermons pas simplement dans la folie.
Oui, d'accord.
Il cherche quelque chose.
D'accord.
La première, c'est entretenir ses 70 millions de voix. Il sait qu'il va en perdre une partie, mais c'est entretenir.
Même.
Parce que c'est un rapport
c'est
de force.
73, oui.
Oui, 73. Ce qui est pas mal, quand
oui,
même.
Oui,
hein.
C'est beaucoup, oui.
Comme...
Biden a passé les 80 pour les auditeurs qui
oui,
se
Oui, bien sûr, évidemment. Rappelons. Mais il les entretient parce qu'il estime que c'est son capital. Deuxièmement, je ne peux pas ne pas...
Mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison sur ce premier
oui,
point.
Oui, non, mais...
C'est comme tout à l'heure, toute chose égale par ailleurs sur la police, on ne sait pas quelle ampleur ça a. On ne sait pas chez les électeurs trumpistes, on ne sait pas très bien quelle ampleur sont des trumpistes fous, populistes comme lui, enfin fanatiques comme lui, ou des républicains de droite qui
tout
votent
à fait,
républicains.
Tout à fait.
Et ceux-là, il y en a une partie qui doivent se dire non, là, c'est trop.
C'est trop, mais évidemment. Mais lui, il ne le pense pas, ça. Il pense que c'est les siens. Bon.
Oui.
Donc il cherche à les entretenir dans le fait qu'on lui a volé la victoire. Et deuxièmement, je ne peux pas ne pas penser qu'il n'y a pas en coulisses une négociation avec Biden sur un certain nombre de sujets. Et plus il est récalcitrant sur le passage, mieux il a un rapport de force, c'est le dernier qui lui reste d'ailleurs, pour pouvoir négocier avec l'administration qui vient, on va dire, quelques facilités pour la suite, parce que dans sa folie, il pense bien rebondir. Et il a besoin de cela, pour cela, d'être protégé sur un certain nombre de sujets.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, je pense que Trump est un des rares types capables de s'auto-gracier.
Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Ce qui serait une bonne fin. Là, il a gracié un de ses proches. Oui. Là, qui,
ça veut dire un problème, sauf erreur de ma part, il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que je crois qu'il peut s'auto-gracier. Enfin, ça, c'est jamais fait, s'auto-gracier. Mais je crois qu'il peut s'auto-gracier des crimes fédéraux, mais pas des crimes d'État.
Oui,
et
mais
donc, il pourrait être toujours poursuivi par l'État de New York, par exemple, pour telle ou telle fraude.
Ah, mais c'est pas la même chose.
Oui.
Et vous avez vu qu'on a évoqué la possibilité qu'il démissionne et que son vice-président devienne président et le gracie.
Oui, ça, je pense qu'on n'ira pas jusque ça. À suivre, il ne faut rien penser de rationnel aux États-Unis tant ça va loin. Sauf que les institutions ont tenu. Allez, pour terminer, il y a quand même eu un grand événement cette semaine. C'est la mort du footballeur Diego Maradona. Et je dirais, c'est l'unanimité des hommages. Moi, c'est la première fois que je vois un type qui a soutenu Fidel Castro, qui a soutenu Raúl Castro, qui a soutenu Chavez, recevoir l'unanimité des hommages d'où qu'ils viennent. Du coup, bah, on a choisi comme chanson Manu Chao, 2007, La vie la tombola.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba.
frente a cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si j'étais Maradona, je vivrais comme lui. C'est pas forcément un très bon conseil à donner à nos auditeurs. Merci beaucoup à Jean-Luc Arblat qui a réalisé cette émission à Capucine Patouillet, qui l'a préparée. Catherine Ney nous retrouve la semaine prochaine. Merci à Jean-Christophe Cambadélis. Faites merci écouter aussi l'émission. Il y a déjà des retours qui disent qu'elle est très intéressante, Jean-Christophe Cambadélis.
Ah bah très
vous
bien.
Pouvez la faire écouter en podcast sur Europe 1.fr.
Olivier Duhamel sur Europe 1.